Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Olivier Babeau, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié Le Nouveau Désordre Numérique, comment le digital fait exploser les inégalités chez Buchet-Chastel. Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Dernier ouvrage en date, Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Jean-Marc Daniel, bonjour. Professeur à l'ESCP. Auteur de l'histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, l'économie expliquée à tous chez Talendier. J'ai encore oublié sur mon bureau pour l'écho, le numéro d'été.
Je m'apprêtais à en faire la remarque.
Consacré, si ma mémoire est bonne, à l'art, au marché de l'art.
Au marché de l'art, exactement.
À la fois virtuel, mais réel.
Absolument.
Un marché très particulier.
Un marché très particulier où une des choses intéressantes sur lesquelles nous insistons dans ce numéro, c'est le fait que c'est pas un marché où il y a un offreur et un demandeur, d'ailleurs, c'est un marché où il y a plusieurs intervenants. Il y a le consommateur final qui va regarder le tableau, il y a le producteur initial qui est le peintre, pour prendre cet exemple dans l'art, et puis entre les deux il y a le musée, il y a le critique, il y a le mécène, et donc
c'est l'exposant,
il y a tout un tas de gens qui interviennent dans le mécanisme, et donc à partir de ce moment-là, eh bien la formation du prix est une formation du prix qui ne répond pas forcément à la bonne vieille règle, le coût marginal, l'utilité marginale, et donc on essaie de montrer ça de façon assez pédagogique pour les étudiants, puisque pour l'éco et centré essentiellement, même si tous les gens avertis peuvent le lire, sur le public scolaire.
La NUPES nous a sorti, j'ai envie de dire, un cahier de doléances, en tout cas, comme maintenant toutes les formations politiques, ce qu'ils attendent de la loi pouvoir d'achat, donc ce qu'ils veulent y voir, en plus de ce qui est prévu. Je vais vous faire réagir, Benjamin Coria, à cette liste, parce qu'elle est assez édifiante. Le SMIC à 1 500 € net, également maintenant demandé par le Parti Socialiste. Le minimum vieillesse à 1 063 €, l'équivalent, en fait, du seuil de pauvreté, à peu près. 10% de hausse du point d'indice, là où 3,5 sont prévus. J'ai mis plafonnement, j'ai pas mis le mot derrière. Oui, les loyers, voilà, ils veulent plafonner les loyers, là où il y a simplement un système de frein, de hausse, freiner la hausse à 3,5% sur un an. Les APL plus 10%, là où les autres minima, enfin là où l'ensemble des minima, normalement, je crois, prennent 4%. La gratuité de la consommation minimale d'eau et d'électricité. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Quand vous entendez ça, Benjamin Coria, vous vous dites, ouais, il faut y aller. Ou
je vais vous dire.
À un moment,
je vais pas discuter.
J'ai même pas chiffré parce que.
Oui, non, mais je vais pas discuter les mesures une par une parce que les mesures une par une, on peut les discuter. Mais la philosophie telle que je l'entends, je la défends. Bon, alors comment j'entends ?
Comment vous la définissez cette philosophie ?
Alors justement.
Mettez le micro plus près, Benjamin.
Oui.
Trop loin.
Alors la philosophie.
Allez-y, avancez.
Oui. Donc la philosophie telle que je l'entends, c'est de dire on a affaire à une crise. Structurelle extrêmement profonde, la dimension inflation à laquelle les gens sont le plus sensibles et de manière parfaitement juste n'est que la face apparente de l'iceberg, et donc il ne suffit pas de s'en prendre à cette dimension-là, même si évidemment elle est indispensable et c'est sur elle que ça se focalise. Donc moi, la philosophie, encore une fois, je ne vais pas discuter les mesures une par une, elles peuvent évidemment être différentes. La philosophie, c'est trois choses.
Allez-y.
C'est un, faire face au choc inflationniste, notamment pour les plus défavorisés, bien entendu, mais c'est deux autres choses en même temps. La deuxième chose qui va avec, c'est de commencer à, on va dire, rétablir et entamer les niveaux d'inégalité qui se sont creusés au cours des 30 dernières années. Et le faire, donc c'est la troisième chose. Donc ça a à voir avec les hausses de SMIC, avec les hausses de minima sociaux, etc. Encore une fois, on peut discuter, hein, que ça soit 15%, 12%.
Non, mais je pourrais vous dire que la redistribution
c'est pas le problème.
Réduit donc, considérablement
les inégalités.
Donc
sans prendre aux inégalités, okay. en commençant à rétablir des minima sociaux de différents types, hein, qui soient acceptables et vivables, à partir de prélèvements, et donc je sais que beaucoup s'en prennent à ça, mais pour moi c'est absolument fondamental, en particulier sur des profits tout à fait exceptionnels et indus, qui sont absolument pas nés ni de l'innovation, ni
d'accord,
de l'intelligence.
On est d'accord là-dessus.
Donc voilà, cette philosophie-là, je la défends.
D'accord.
Alors après, le détail, on peut discuter, bien sûr.
Effectivement, quand on regarde Total ou CMA-CGM, ce ne sont pas des choix stratégiques soudains qui expliquent...
C'est windfall profits.
Ce sont des secteurs particuliers, notamment l'énergie, où effectivement c'est le produit qui fait le prix et pas l'entreprise.
Bah, évidemment.
Choc inflationniste, réduire les inégalités. Et bon, comment vous réagissez, Olivier Babeau, Jean-Marc Daly? Vous pouvez réagir soit au. Moi, je trouve quand même que les mesures prises une par une méritent 3,5% de points d'indice ou 10%, c'est pas la même donne. 1 500 € plus 15% sur le SMIC, c'est quand même, voilà, c'est 10% pour les APL. La gratuité minimale de la consommation d'eau et d'électricité, je sais pas où ça nous mènerait. Comment vous réagissez à ça? Comme Benjamin Coria, ou à la limite, vous pouvez réagir à sa philosophie, ou alors, mesure par mesure, en disant, mais stop, il y a un moment.
Et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire.
Olivier Babeau.
Ça va être très, très intéressant. La première chose, c'est que sur la taxation de ce qu'on peut appeler les super profits.
Ah bon, on peut partir là-dessus, allons-y, oui.
Non, mais pour le dire très rapidement, à la limite, pourquoi pas. Mais combien on va réussir à avoir, et puis sur quelle durée?
Les Anglais font 25%, sommes... ils attendent 6 milliards.
Voilà, donc probablement des sommes assez limitées. On est autour de 10 milliards, je pense, grand max, si vraiment...
Sans
on
doute pas 10
fond,
milliards.
Hein. Non, sans doute. 10 milliards, c'est quand même extrêmement peu par rapport...
Non, mais on serait pas à 10 milliards.
Par rapport aux dépenses à côté. C'est-à-dire qu'on est vraiment de l'ordre de la goutte d'eau. Donc, on est dans le symbole, c'est très sympa, ok, mais on n'est pas du tout dans la solution par rapport au financement des dépenses.
D'accord.
Qui sont proposées. Tout à l'heure, j'entendais sur notre chaîne de BFM, BFM TV, où je crois que la candidate de la NUP, une députée de la NUP, expliquait que on ne pouvait pas se contenter de distribuer, je crois, des miettes aux Français par-ci, par-là. Alors, là, on a une miette de l'ordre de 50 milliards, quand même. C'est tout. On a à faire une bonne miette. On a à faire une bonne miette. Donc, évidemment, c'est jamais assez. Avec un financement, alors, d'une part, avec ces taxes, et de l'autre, je ne comprends pas très bien, avec des augmentations de cotisations sociales. Ça veut dire que, pour augmenter le pouvoir d'achat, vous allez quand même augmenter, d'un autre côté, les prélèvements que vous allez faire sur les salaires. Donc, il y a un moment donné, sur le pouvoir d'achat, je ne comprends pas très bien. Bon. L'autre chose, c'est évidemment qu'il y a un moment donné, il y a quand même une contradiction entre le soutien affiché à la capacité à acheter des trucs et... Puis la sobriété, par ailleurs, on nous explique qu'il va falloir, à un moment donné, essayer d'avoir un signal
prix. C'est Gaspard Koenig qui s'empare de cette thématique ce matin.
Oui. Effectivement, il y a une contradiction.
Il y a une contradiction sur le fait de vouloir moins de fossiles et de le subventionner actuellement. Oui, aussi.
Il ne faut pas être anti-consumériste et puis dès qu'on peut un peu moins remplir son caddie, ah ben vite, il faut absolument faire.
Oui, mais Olivier Babeau, là, on est sur une sorte de scénette d'urgence incroyable et on met de côté, il y a des priorités, on met de côté certains objectifs. Bon, je pense que c'est ça, à mon avis. Mais vous avez raison, on ne peut pas doper le pouvoir d'achat et vouloir de la sobriété.
Le dernier truc, c'est qu'en continuant à promettre le SMIC à 1 500, comme c'était le cas avant, finalement, ils ont baissé leur promesse de l'ordre de 5%, puisque c'est à peu près l'inflation, parce qu'il faudrait revaloriser les 1 500 en permanence, parce que, évidemment...
Mais Mélenchon, il a dit qu'il voulait 15% en plus du...
qu'avant.
Il veut 15% en plus du niveau.
Ils viennent de baisser, baisser la promesse, en fait. Voilà.
Jean-Marc, réagir à ces mesures...
Oui, je rentrerai
à la solution.
Je ne rentrerai pas non plus dans le détail. Il faut bien voir que dans ce genre de circonstances, l'enjeu, ça consiste à prendre aux uns pour donner aux autres. Alors, on prend aux uns par l'intermédiaire des impôts, et où on prend aux uns par l'intermédiaire de la dette publique. On est quand même dans une situation où notre ministre de l'économie nous dit que la cote d'alerte est atteinte, où la Cour des comptes dit que la situation de 2021 était absolument dramatique, 170 milliards d'euros de déficit, 60% des dépenses sont couvertes par les recettes pérennes. Il faut donc emprunter à hauteur de 40% des dépenses, et on va encore en rajouter. Et pour faire quoi? Effectivement, pour financer et subventionner essentiellement notamment de l'acquisition de carbone importé. On est en train de mettre en place un mécanisme dans lequel on ponctionne le pouvoir d'achat de la génération future pour garantir le pouvoir d'achat de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Donc je trouve ça totalement irresponsable. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire?
J'allais vous le dire. Dans ces cas-là,
est-ce
où est la solution?
Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, voilà, je pense que...
Non, mais vous allez réagir, Benjamin.
Je pense d'abord qu'effectivement, on ne peut pas distribuer de revenus sans avoir de la production en regard. Je cite souvent dans les 10 principes de Mankiw le principe numéro 8 qui dit le revenu d'un pays correspond à la production de ce pays. Et puis je vais citer autre chose. Notre pays est confronté à d'immenses défis. Nous voulons tous deux une économie à faible taux d'imposition, à forte croissance et des services publics de classe mondiale. Mais cela ne peut être réalisé de manière responsable que si nous sommes prêts à travailler davantage, à faire des sacrifices et à prendre des décisions difficiles que la population comprendra et partagera. Ça, c'est la lettre de démission du chancelier de l'Échiquier en Angleterre. Ça, c'est un homme politique responsable. Ça, c'est quelqu'un qui est digne de diriger un pays. C'est différent des gens qui nous annoncent qu'on va distribuer, qu'il faut absolument s'abattre sur les riches parce que la situation est dramatique et que quelle que soit la situation, quelle que soit la capacité de production, quelle que soit la réalité économique, on va pouvoir distribuer du pouvoir d'achat. Juste une dernière conclusion sur les super-profits et tout ça. En ce moment, je cite assez souvent un vers de Corneille. Alors, je pense que Corneille, maintenant, plus personne ne sait qui c'est. Mais dans une de ses pièces qui s'appelle Surena, il dit « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». Et je pense, hélas, que cette vérité du XVIIe siècle est plus que jamais d'actualité, notamment sur certains bancs de l'Assemblée nationale.
J'avais pas vu la lettre de démission que vous avez lu.
C'est un texte que je recommande qu'on trouve sur Internet, un texte que je recommande aux auditeurs téléspectateurs, car c'est là, à mon avis, qu'on voit ce que c'est qu'un homme politique.
Bon, Benjamin Cordier, par rapport à ce qui était dit là, et sur le fait que oui, de facto, c'est vrai qu'on subventionne la demande pour des produits importés, et en plus des produits carbonés, et qu'on est en même temps, on lance de grands appels au respect des accords de Paris et de grands appels à la sobriété, pas plus tard qu'il y a une semaine dans la bouche d'Agnès Pannier-Runacher.
Je trouve ça très scandaleux d'entendre ça. Ah, très honnêtement,
alors,
je trouve ça très scandaleux. D'abord, puisque Jean-Marc veut jouer au jeu des citations, on va jouer au jeu des citations. Alors, Victor Hugo, que les gens connaissent, alors peut-être à la différence de Corneille, avait dit « Face à la pauvreté, il y a deux solutions. Soit on vient au secours des miséreux, soit on supprime la misère. » Voilà, je trouve que c'était une très belle citation. Moi, je m'inscris dans cette logique-là.
Et moi aussi, je supprime la misère.
Moi, je suis pas sûr du tout. Alors, plusieurs remarques. Ne mélangeons pas tout. Et je veux dire, on est suffisamment experts, entre guillemets, pour pas faire semblant que on voit pas les différences. Là, on a affaire à un plan qui est, d'une certaine manière, micro-conjoncturel, puisqu'il s'agit d'affronter les questions de hausse brutale et inattendue du pouvoir d'achat, etc. Il faut pas me glisser par là derrière les préoccupations de long terme et d'environnement, d'autant que vous êtes très malvenu de le faire, parce que la NUPES en l'occurrence a un plan sur ces questions-là qui est certainement le plus sérieux, le plus profond et celui qui va le plus loin. Donc je veux dire, il faut prendre en considération l'ensemble. Moi, ce qui me frappe par exemple, c'est que dans ce que vous défendez, on continue comme on est et les inégalités ça n'existe pas et c'est une affaire d'envieux et ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle nous sommes, je suis tout à fait renversé par une vision de ce type. Comment dire ? Je vais juste faire, puisque vous
abordez... Trop loin pour que la parole circule.
Voilà. Non, mais je vais juste faire un petit détour. France 2030, le discours de notre président sur France 2030. Moi, j'ai été, c'est le cas de le dire, atterré. Parce que ça consistait à dire, dormez, bonnes gens, il n'y a pas de problème. Nous allons vous faire des centrales nucléaires, nous allons vous faire du véhicule électrique, nous allons faire passer des petits robots dans les champs. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est ça que vous mettez en avant pour faire face à la crise climatique. S'il y en a qui prennent au sérieux la crise climatique, c'est la NUPES. Bon, donc j'ai fini. D'accord. Donc je maintiens que on ne peut pas faire face à la crise micro-conjoncturelle d'inflation sans toucher des éléments structurels d'inégalité.
Bon, il est certain que là, mais alors c'est quand même sur la question des inégalités. On sait qu'on a un système de redistribution qui fait que les inégalités monétaires sont quand même très réduites en France, après redistribution.
Non, elles ne sont pas très réduites. On a quand même... Le système ne marche pas bien.
C'est pas zéro.
Je vous le concède. Non, le système, il est important, puisqu'il y a beaucoup de redistribution. Ça, je vous le concède. Mais au final, il ne marche pas bien, puisqu'il y a quand même 15% de pauvres dans ce pays, ce qui n'est pas normal dans un pays comme le nôtre.
Mais 14%, un peu plus de 14,1%, c'est pas un niveau élevé pour les pays de l'OCDE, Benjamin Coria.
Non, mais cessons de raisonner de cette manière.
C'est comme pour le chômage, il y a des parties frictionnelles.
C'est pas parce que l'OCDE tout entière va dans le mur que c'est la bonne référence.
Je voulais réagir à la notion d'inégalité que Benjamin Coria met en avant pour justifier qu'on prenne des choix.
Mais c'est pas parce qu'elle est mondiale qu'elle n'existe pas.
Déjà, mais pour justifier qu'on prenne des choix structurels dans les mesures NUPES, c'est
juste structurel. Avant de laisser Olivier réagir.
Et peut-être un mot, Olivier, sur la taxation. Je ne sais pas si vous avez réagi déjà.
Juste en deux mots. Encore une fois, je pense que l'enjeu, c'est moins les inégalités que la pauvreté. Je rappelle aussi, le but, c'est de faire en sorte que des gens aient un niveau de vie décent. Ce n'est pas de se poser la question de savoir s'il y a, il y a des gens... Et alors, je ne vais pas me battre à coup de citation de Victor Hugo. Je renvoie à choses vues. Je peux donner le texte à la fin de la Révolution 1848, Victor Hugo dit « J'ai retiré la révolution de 1848 le fait que, en politique, liberté, ça se dit république, mais en vie, ça se dit égalité. » Et donc, je pense qu'effectivement, il faut la république et pas l'envie.
Oui, mais, la République, c'est l'égalité.
Olivier Mabon,
c'est l'envie. C'est ce que dit Victor Hugo.
Par rapport à.
Mais Victor Hugo dit ce qu'il veut, mais la République, elle dit l'égalité et elle le met au frontispice de ses mérites.
Je réponds à une citation de Victor Hugo, pas une citation de Victor Hugo.
D'accord.
Moi, la citation qui me vient quand je vois ça, c'est la citation de Fabien Roussel. Alors, je suis un peu moins historien que vous, mais enfin, si vous voulez du pouvoir d'achat, vous travaillez, a dit Fabien Roussel. Par rapport à.
À condition d'en donner du travail. Personne ne dit le contraire.
De revenir un peu au chiffre, parce qu'on est un peu dans la cinquième dimension.
Plus près le micro, Olivier.
Bruno Le Maire qui a dit qu'il n'y aura ni dette, ni augmentation des impôts, ce qui paraît quand même assez, à un moment donné, assez contradictoire. Effectivement, chaque année, aujourd'hui, l'État il dépense 50% de plus qu'il n'a comme recette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 66 et ses dépenses, c'est 100. Donc la différence, on va aller l'emprunter. On va vers les 3 000 milliards de dettes. Et en effet, 3 000 milliards.
Oui, c'est ça.
On va vers les 3 000 milliards.
Ça paraît effarant,
mais voilà. Et le poids de la dette, c'est-à-dire la charge du remboursement uniquement des intérêts, ça va être 55 milliards cette année. 55 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Et on sait que si on continue à augmenter les taux, enfin si l'inflation se poursuit, il y a 10% de notre dette, enfin 11% même, qui est indexé sur l'inflation. Et si les taux, évidemment, d'endettement augmentent des bons du Trésor, on va probablement aller vers les 80, vers les 100 milliards. La réalité, c'est qu'on va de plus en plus être complètement asphyxié. Alors, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut juste augmenter les impôts ? Mais je suis désolé, le problème, Benjamin, c'est qu'on est au taquet de tous les niveaux d'impôts. Alors, on peut continuer à les augmenter, c'est quand même ça. L'augmentation des impôts, à un moment donné, finit par avoir un effet profondément récessif sur l'activité. D'ailleurs, c'est la fameuse courbe de l'affaire, c'est trop d'impôts. Enfin, évidemment, vous chargez trop la mule, elle n'arrive plus à produire. On est quand même, dans tous les classements, quasiment au maximum sur la plupart des impôts. Donc, on n'a plus de marge de manœuvre. C'est terminé. Et là, on est face à un mur parce que la dette, qui était effectivement la solution facile qu'on avait depuis quelques temps, et en plus, c'était génial, ça baissait le coût grâce au fait qu'on faisait rouler la dette avec des taux d'endettement qui étaient plus bas qu'avant. C'était formidable. Embrassons-nous, Folleville. Ben non, c'est terminé. La récréation est terminée. Donc, assez rapidement, tous ces délires sur le pouvoir d'achat vont s'arrêter au cours de l'année 2023. Et ça va être assez douloureux. Moi, j'attends le moment où ça va venir.
On a 1:30 avant de marquer une pause, Benjamin Coria. C'est bien d'avoir effectivement une philosophie, comme vous le dites, mais le mur, il existe. Il n'est pas philosophique, le mur.
Mais
les 17 milliards de charges en plus à cause des OATI, on les a là en 2022.
Oui, mais si vous voulez...
Je ne vais pas
nier ces contraintes-là.
Ben non, on ne peut pas.
Non, mais bien entendu, ces contraintes-là existent, mais parce que, d'une certaine manière, on les a fabriquées.
Elles sont là.
Elles sont là. Mais en même temps, si on raisonne en micro-conjoncture, il faut le dire, il y a 50 milliards d'euros de plus de revenus qui est des windfall revenus, d'une certaine manière. Bon, ça, c'est une déclaration de Bruno Le Maire, c'est pas de moi. Bon,
des recettes en plus.
Donc, je veux dire, il y a des marges. Bien. Alors, après la question de fond, elle existe. Moi, je ne vais pas du tout nier qu'elle n'existe pas. Et vous en êtes témoin. J'étais de ceux qui trouvaient que cette politique d'argent gratuite distribuée sans fin était une ineptie.
Vous êtes économiste, Benjamin Coria. Vous ne pouvez pas trouver ça normal, normalement.
Mais bien sûr, il y a plein de gens qui trouvaient ça normal, qui trouvaient ça très bien. Et surtout, il y a un nombre incalculable de lobbies qui ont poussé pour que ça continue, parce que c'est avec ça qu'ils se sont enrichis. Ils obtenaient de l'argent gratuit et avec ça, ils allaient spéculer en bourse. Bon, donc, c'est tout ça qu'il faut modifier. Il ne faut pas seulement parler de la dette, il faut expliquer d'où elle vient.
Le mur, vous me direz s'il y a de la marge de manœuvre et s'il y a un mur quand même, parce que je trouve que la description très synthétique d'Olivier Babeau est très parlante. Et puis justement, ça nous amènera à ce qui s'est passé hier sur les marchés. On ne va pas dire jour-nuit, ça allait bien et ça va aller très mal, mais bon, il y a quand même pas mal de signaux qui se sont allumés. À la suite d'ailleurs, notamment en Europe, de l'annonce du premier déficit commercial de l'Allemagne depuis 1991 au mois de mai, 1 milliard. Mais 1 milliard, oui. Pour un pays qui avait l'habitude de les aligner par dizaines tous les mois, c'est quand même une donne qui évolue aussi. À tout de suite.